Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût d'entreprendre. Les restaurateurs sont dans les starting blocks, prêts à redémarrer. Ils attendent le feu vert du gouvernement le 2 juin prochain. Ouvrir, oui, mais dans quelles conditions sanitaires et dans quelles conditions sociales ? Benjamin Serra est le vice-président de la CPME Haute-Garonne. Il est restaurateur à Toulouse. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Benjamin, vous êtes un professionnel de la restauration aux commandes de deux adresses à Toulouse, Prima Lova, Prima Fabrica et prochainement de l'ancienne Villa Tropézienne. Benjamin, on a envie de vous demander comment vous vous sentez aujourd'hui ?
Je suis dans la même angoisse, dans la même incertitude que tous les professionnels de la restauration, puisque nous avons une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Nous avons des charges qui s'accumulent depuis bientôt 3 mois et nous n'avons pas trop de visibilité, voire pas du tout de visibilité sur les conditions de réouverture et ni de la date d'ouverture. Donc, on nous parle du 2 juin pour les départements verts, mais à quelques jours de la réouverture, on n'a toujours pas les conditions. Est-ce que ça va être une table tous les 1,50 m? Est-ce qu'on va utiliser les 4 m2? Comment ça va se passer parce que chaque restaurant est unique dans sa configuration. Est-ce que un petit bistrot qui a une salle de 30 m2 va être obligé, allez, on va dire 40 m2 pour être facile, est-ce qu'un bistrot qui a 40 m2 pourra avoir uniquement 10 personnes? Aujourd'hui, c'est pas possible de faire fonctionner un restaurant avec juste 10 places assises. C'est inconcevable.
C'est pas possible, effectivement. Vous, en termes de rentrée financière, vous n'allez pas vous y retrouver.
Non, on va ouvrir pour perdre de l'argent. On va ouvrir pour se mettre en difficulté, pour ceux qui ne le sont pas déjà, parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est dur pour beaucoup de monde. La restauration a beaucoup changé. Il y a une guerre immobilière. On a une reconversion des locaux très souvent de prêt-à-porter qui ont été redistribués vers la restauration avec en contrepartie des augmentations de loyers puisque les restaurants ont pour image de créer de temps en temps de la nuisance. Donc très souvent un loyer qui était à 2 000-3 000 € en prêt-à-porter, on change les statuts, on en fait un restaurant et du coup on part sur 6 000-7 000 € de loyer. Donc les loyers sont très très chers, je parle au moins des grandes villes et notamment Toulouse. Et puis c'est un consommateur de personnes, c'est ce qui en fait aussi le charme de notre métier, c'est que pour ouvrir un restaurant, que vous fassiez un couvert ou que vous fassiez 1 000 couverts, il vous faut toujours un barman, un serveur, un chef, un cuisinier, un plongeur. Voilà, vous n'allez pas mettre un quart de plongeur parce que vous avez un quart de clients. Vous n'allez pas mettre un demi-barman ou une demi-hôtesse d'accueil pour ceux qui en ont une. Enfin, le client, il faut l'accueillir de la même façon. Et c'est ça qui va être très difficile. D'autant plus qu'on a accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de dettes sur les derniers mois, puisqu'on a des loyers qui ne sont toujours pas effacés, qui ne sont pas pris en charge par les assurances. Ça, c'est la première des choses. Il y a eu beaucoup de pertes à la fermeture, puisqu'on nous a annoncé ça en 4 heures, puisqu'à 19 heures, il y a eu l'annonce du Premier ministre qui a dit qu'à minuit, les restaurants fermeraient. Donc, je vous passe toute la perte, tous les produits frais qui ont été jetés à minuit et demi, voilà, qui a été jeté ou qui a été distribué, puisqu'on n'est pas dans le gaspillage, mais qui a été perdu comptablement.
Mais c'est ça, voilà,
c'est
tout à
une
fait,
perte
tout
sèche. À fait, oui. Et puis, il y a tous ces salariés. Certains professionnels ont pu compenser le manque à gagner de leurs salariés. D'autres n'ont pas pu le faire. Et nos salariés sont payés à 84% par le chômage. Merci d'ailleurs. On critique souvent l'État français, mais au moins, on paye des charges et on sait que ça permet de mettre des gens à l'abri. Par contre, ce que l'on dit moins, ce que l'on dit pas du tout, c'est que chaque salarié de nos établissements cumule 2 jours et demi de congés payés sur leur chômage partiel et qui est dû par l'entreprise. Donc, nous, on a une structure qui est assez grosse où sur nos deux primas, on a 90 salariés qui sont en chômage partiel depuis un trimestre. Donc, ils ont cumulé tous plus d'une semaine de congés. Donc, ça fait « je dois 90 semaines ». Aujourd'hui, à mes salariés, que je suis en incapacité de donner. On est déjà au plus bas, c'est pas possible.
Vous n'allez pas pouvoir reprendre comme ça, effectivement. Sur un plan social, il va y avoir de la casse.
Il va y avoir de la casse, c'est inévitable. Alors, il y a deux casses. Il y a une casse limitée qui est ponctuellement perdre des emplois. Le temps que ça reprenne, ça va être l'histoire de 6 mois. Et puis après, il y a la casse professionnelle, c'est-à-dire l'établissement qui va purement fermer. et qui va être rapidement à la barre du tribunal de commerce pour cessation d'activité.
Benjamin, vous êtes monté au créneau avec l'UMI et le GNI, hein, qui sont des professionnels, des syndicats professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, pour demander au maire de Toulouse un agrandissement des terrasses, dans la mesure du possible, bien évidemment, et vous attendez une réponse là, dans les jours qui viennent.
Tout à fait. On s'est réunis, donc UMI, GNI, CPME et MEDEF également, donc qui sont les deux syndicats généralistes plus les deux syndicats de la profession, pour faire une conclusion qui est simple, c'est la seule variable d'ajustement pour essayer de sauver les commerces, c'est le nombre de places assises. Et le nombre de places assises, on ne l'obtient que avec l'aide du maire sur de l'emplacement public, puisque nos restaurants sont déjà optimisés, il y a peu de places perdues dans nos établissements, donc c'est en élargissant une terrasse, c'est en prenant une place de parking. C'est peut-être 2-3 restaurants qui se mettent d'accord pour fermer une impasse de rue sans que ça gêne, bien entendu, du stationnement, faut pas qu'il y ait de porte cochère. Ou... Il va y avoir des mesures qui vont être assez faciles à mettre en œuvre, c'est l'élargissement des terrasses en respectant, bien entendu, les passages pour les piétons, les riverains. Il est hors de question que quelqu'un qui avait une terrasse de 30 places passe à 200 places parce que la géographie lui permet. C'est pas le but. Il faut pas transformer Toulouse en une grande fête
en
des
grande
terrasses.
Terrasse. Oui, c'est ça.
C'est pas le but. Mais c'est plutôt quelqu'un qui aurait 80 places assises. Ouais. Avec la réforme du Covid, se retrouverait avec 30 places et grâce à la mairie, se retrouverait à 40 ou 50 places. Le but, ça va même pas d'avoir le même nombre de places que les autres années, c'est d'en avoir juste quelques-unes de plus pour survivre.
C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et ça permettrait de maintenir certains établissements, pas forcément de sauver la saison, mais au moins de sauver quelques-uns de vos confrères.
Là, c'est de la survie. Donc, chacun fera ce qu'il pourra. Si, dans le meilleur des cas, je pense que ceux qui s'en sortiront le mieux arriveront juste à payer leur loyer et leurs salariés, bien entendu. Mais la plupart des restaurateurs ont arrêté de se rémunérer depuis déjà plusieurs semaines. Certains continuent à se rémunérer, mais moins. Mais la rémunération du chef d'entreprise, elle a déjà fondu. Si déjà on peut reprendre l'activité avec 50% de la masse salariale ou 60%, et pouvoir payer même pas nos loyers là de juin, juste nos loyers de mars et avril. Mmh. Il faut quand même pas oublier que cette crise sanitaire, elle est de la faute de personne, mais elle intervient juste après 18 mois de crise des Gilets jaunes, qui a déjà mis à bas la trésorerie de tous nos chefs d'entreprise, puisque je pense que si vous êtes toulousaine, vous pouvez vous rendre compte que tous les samedis, nous sommes dans un climat de guerre civile avec des bruits de grenades d'encerclement et de gaz lacrymogènes.
Donc la crise sociale, effectivement, a mis en difficulté certains de vos confrères. Ajoutez à cela le Covid, vous imaginez mal reprendre dans les conditions qui sont les conditions d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire 4 mètres carrés réglementaires. C'est pas comme ça que vous voulez faire votre métier, c'est pas jouable pour vous.
Non, c'est pas jouable, d'autant plus que il y a eu des prêts abondants. Le GIE, donc tout le monde, pas le GIE, excusez-moi, le PGE.
Le prêt garanti par l'État, oui.
Tout à fait. Ce prêt, c'est une opportunité, c'est une aide et on en est très reconnaissant. Mais il ne faut pas oublier que c'est un crédit, c'est une dette et qu'il va falloir la rembourser dans les 3 prochaines années. Donc, c'est l'effet pervers. Je pense que dans quelques mois, quand le PGE va devenir payant, puisque là, il est gratuit jusqu'à la fin de l'année, on n'en parle pas. Pour l'instant, c'est une subvention, mais à la fin de l'année, ça va devenir un crédit et donc une dette sur l'exploitation de nos entreprises. À partir de là, celui qui arrivait déjà avant la crise à s'en sortir juste, il va reprendre, je ne sais pas, entre 3 et 5 000 euros de mensualité de remboursement de crédit. Et ça, il n'aura pas la possibilité de le... Dans l'aveuglement, dans la précipitation, tout le monde s'est jeté dessus, et moi le premier, hein, déjà parce que c'est une question de survie, mais je pense que beaucoup de monde ne se rendent pas compte de cette charge qui va peser sur les entreprises sur les 3 ou 5 prochaines années. Ça va être très dur à supporter.
Beaucoup de vos confrères ont mis en place des systèmes de click and collect, ou de drive, ou de livraison, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, d'après vous, va perdurer et peut continuer? Dans quelles conditions?
Ça fait partie de la transformation de notre métier. Je pense que durablement, on aura tous des cartes avec du click and collect. Mmh. Maintenant, ça ne peut être qu'un service qui vient s'agrémenter et s'ajuster sur notre principal métier, qui est l'accueil. Si on doit juste faire du click and collect, on ne va plus louer des locaux à 6-7 000 euros de 400 mètres carrés pour fournir des poches en papier avec de la nourriture. Donc, toute la structure économique et tous les business plans de nos entreprises sont faits pour que les affaires se fassent à l'intérieur. Il y a de la décoration qui coûte cher, il y a une grande superficie dans des emplacements toujours premium. Tout ça, c'est pour recevoir du monde, c'est pas pour se transformer en labo de click and collect. Donc, c'est un complément d'offre. Je pense que ça peut donner des changements de comportement. Mais en aucun cas, ça ne remplacera le chiffre d'affaires qu'on faisait sur nos affaires.
Ça ne peut pas devenir la norme, en fait.
Non. Ni la livraison, ni le click and collect. Déjà parce que y a un coût d'emballage qui est quand même important.
C'est ça,
coût de livraison, quand on prend les principaux opérateurs qui sont Deliveroo, Just Eat, Uber, ils prennent entre 25 et 30% de commission. Je vais pas dire que c'est la marge du restaurateur.
Donc il ne reste pas grand-chose, en fait.
Les restaurateurs qui travaillent des produits frais et qui les vendent au bon prix en temps normal, s'ils donnent 30% à un livreur, plus un peu d'emballage qu'on n'a pas dans un restaurant puisqu'on travaille sur de la vaisselle, qu'on nettoie, je pense que c'est foutu, quoi. Vous faites du chiffre, mais pas de marge.
Juste, on pourrait terminer là-dessus. Quel est le conseil que vous pouvez donner, vous, aux professionnels aujourd'hui qui vous écoutent ?
Soyons prudents. Moi, la première des choses, c'est l'endettement. Soyons prudents, n'ayons pas cette précipitation qu'on a tous envie de dire, allez, le 2 juillet, on fait revenir tout le personnel, c'est la fête, on reprend nos locaux, on nettoie. Il va falloir être prudent, il faut ouvrir sans précipitation, il faut pas commencer à investir à tout va dans tout, y compris dans la masse salariale. Il va falloir être très prudent, ouvrir petit à petit et travailler en bon père de famille, en bon gestionnaire. Je crois que c'est ça le plus important. Et puis avoir toujours ce dialogue social avec vos bailleurs, puisque il y a quand même des bailleurs qui sont raisonnables. J'en ai rencontré beaucoup. Certains font des remises, mais d'autres font de l'étalement. Et ce qui est très important, ça va être de garder une activité avec une économie saine, une comptabilité saine, parce que ce qui nous pend au nez aussi, c'est une dégradation, des notes bancaires. Et si on commence à avoir des découverts ou des impayés, les fournisseurs ne vont plus vous suivre, parce que les fournisseurs, ils sont à l'affût aussi. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de fournisseurs qu'on payait en fin de mois qui vont demander d'être payés toutes les quinzaines. Ceux qui payaient toutes les quinzaines vont demander d'être payés toutes les semaines. Et ceux qui sont mal notés parce qu'ils ont eu des accidents bancaires, ils devront payer vulgairement au cul du camion. Et ça, c'est très important. Il va falloir être très prudent là-dessus.
Merci beaucoup Benjamin Serra, merci à vous de nous écouter sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radioprésence.com.
Le goût d'entreprendre. Doris Pradal.
Bonjour à tous et bienvenue dans le goût d'entreprendre. Le Made in France, et plus particulièrement le Made in Occitanie, est au cœur de nos préoccupations. La période de confinement a permis de nous interroger sur notre façon de consommer, mais aussi de travailler. On a redécouvert nos éleveurs, nos producteurs locaux. Elsa Ducousseau est responsable du Drive Fermier Toulousain. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Merci Elsa de nous rejoindre. Donc vous êtes responsable du Drive Fermier Toulousain. Vous êtes installée à Toulouse.
Oui, c'est ça. Donc le Drive Fermier Toulousain a un point de retrait actuellement au sud de Toulouse, au domaine de Candy. On fait aussi la livraison pour les personnes domiciliées à Toulouse.
Alors, parlez-nous du Drive Fermier Toulousain. Quel est le principe? En fait, vous regroupez des producteurs.
Voilà, le Drive est une association qui a été créée par la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne. Ça va faire bientôt 6 ans. Il y a 6 ans, à l'initiative un peu de toutes les chambres au niveau national, toutes les chambres créaient en fait un Drive fermier. La Haute-Garonne a aussi sauté sur l'occasion. C'était une innovation et ça a énormément plu autant aux agriculteurs qu'aux clients. On a développé plusieurs points de retrait. que l'on a ensuite supprimé parce que bon ben voilà, dû au confinement, il fallait aussi arriver à gérer une certaine logistique.
Oui, tout à fait.
Mais voilà, donc c'est une association d'agriculteurs aujourd'hui qui compte une trentaine de producteurs locaux du département, mais aussi de départements limitrophes. Voilà. Et donc voilà, l'association est gérée par un conseil d'administration, donc c'est vraiment les agriculteurs sont vraiment partie prenante du projet. En association avec la Chambre d'agriculture. Et donc moi, en tant que salarié de la Chambre, je gère toute l'animation de l'association, donc tout ce qui est administratif, etc., mais aussi la gestion logistique, le logiciel aussi qui permet aux producteurs d'être autonomes dans la gestion de ses produits. Voilà, donc c'est lui qui met en ligne ses produits, qui gère, qui met son prix, voilà.
On va en reparler ça dans un instant. On va
Oui.
rentrer dans les détails un petit peu techniques, hein, voir comment ça marche. Elsa, alors, on a traversé une période où on a un peu redécouvert les producteurs et les éleveurs près de chez nous. C'est le sentiment que vous avez aussi, où il y a eu beaucoup de demandes ces dernières semaines?
Alors, c'est complètement ça. Les gens ont redécouvert. Nous, c'est vrai qu'on était un petit peu en difficulté depuis quelques temps. Et puis, ben, le confinement a permis à énormément de clients de nous connaître, hein, ou de nous redécouvrir. Par des fois, des clients qui étaient auparavant, mais qui avaient un peu arrêté. Voilà. Donc, ben, on a multiplié par 10, voilà, notre chiffre d'affaires.
Par
C'est-à-dire que
10.
c'est ça, on est arrivé un jour jusqu'à 225 commandes.
Ah oui.
Donc c'est énorme. Donc ben, ça a été aussi très très compliqué parce que la logistique était totalement à revoir dans la gestion de préparation des commandes, de livraison des producteurs, de voilà de retrait aux clients et puis voilà il y avait aussi un respect des gestes barrières
Bien sûr.
etc. Donc mais effectivement on a senti vraiment un engouement parce que notamment ben, la farine, les œufs étaient des produits en pénurie. Dans certaines grandes surfaces, hein, et ben, chez nous, ça ne l'était pas. Alors, certains clients diront que ce n'est pas vrai, mais en fait, voilà, on a eu des petits soucis parce que la productrice voilà, qui avait quelques commandes jusqu'à présent, ben, en fait, là, elle avait un énorme boom et en fait, elle n'arrivait pas à suivre. C'est-à-dire qu'il fallait que le moulin arrive à suivre pour transformer la farine. Il fallait aussi qu'elle en sache ses produits, qu'elle les livre, etc. Et elle est arrivée, elle aussi, en fait, à saturation. Donc, on a malheureusement déçu quelques clients qui n'ont pas pu avoir tous les produits commandés. Mais bon, on a fait du mieux qu'on a pu et mine de rien, ça s'est plutôt très bien
Ça s'est
passé.
bien
Voilà.
passé. Alors, donc,
Ouais.
un surcroît d'activité pendant cette période. Maintenant, c'est un petit peu différent. Vous avez remarqué qu'il y avait moins de demandes?
Oui, alors on espère ne pas avoir trop déçu les clients, mais on a quand même un système de remboursement. Donc voilà, les clients se retrouvent quand même, disons pas avantagés, mais voilà, on rembourse les clients lors d'erreurs. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent bien que. On suppose que les clients ont retrouvé leurs anciennes habitudes de voilà d'achat peut-être en grande surface, mais c'est dommage parce que bah, du coup les producteurs en fait ne savent plus en fait comment faire en fait parce qu'ils ont eu voilà une énorme demande donc il fallait s'adapter à l'énorme demande. Ils ont anticipé par exemple sur des semis, des plantations de l'abattage d'animaux, etc. Et puis ben, aujourd'hui, en fait, il y a une crainte de se retrouver avec des produits peut-être
Avec
sur les
trop,
bras parce que voilà, ils ont anticipé un boom et puis maintenant, ben non, ça redescend quoi. Donc c'est très dommage.
Mais
Voilà.
alors ça, vous avez besoin d'aide. Pour ça, vous avez besoin qu'on parle de vous. Il ne faudrait pas
C'est
que
ça.
cette tendance qui semblait être une tendance lourde, hein, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé des producteurs locaux. On en cherchait, hein, on n'en trouvait pas de producteurs à côté de chez nous. Il ne faudrait
Ouais.
pas que ça s'arrête là.
Ben c'est ça. On espère que ben, les clients. Alors, on espère ne pas avoir déçu les clients. Avec les produits qu'on a, je pense que c'est pas ça, parce qu'on a quand même de très bons producteurs et de très bons produits. Donc voilà, revenez nous voir. Enfin, il y a vraiment, on
C'est
est
un
là,
appel que vous lancez.
voilà, on était là avant, on était là pendant,
Oui,
on a
oui.
assumé pendant, et puis ben on est toujours là après. Les producteurs sont toujours aussi disponibles et ont toujours d'aussi bons produits à vous proposer.
On a vu naître aussi, Elsa, des initiatives de livraison à domicile un peu partout. Ça aussi, c'est une nouvelle façon de travailler. C'est une nouvelle façon d'appréhender la relation client.
Effectivement, on voit très bien que ben, les clients sont débordés hein, par leur vie quotidienne, le travail, etc., les enfants. Alors, ben, on n'a pas forcément des fois des horaires sur les points de retrait qui soient adaptés à tout le monde. Ben, là, en fait, grâce à notre prestataire Applicoli, que d'ailleurs je profite pour les remercier parce qu'ils ont été vraiment aussi d'une grande aide logistique, ben, grâce à eux, en fait, on a pu livrer énormément de clients pendant le confinement. Donc, ben, là, c'était vraiment l'occasion pour des personnes parfois âgées qui ne pouvaient pas sortir ben de bénéficier quand même des produits locaux. Et puis, ben, c'est toujours quelque chose qui fonctionne bien, faut pas l'oublier. Ils ont aussi en fait un moyen en fait de livrer. Donc déjà c'est à vélo, donc il y a un côté un peu écologique aussi dans leur procédé. Et puis ben ça permet en fait de vous livrer chez vous quand vous êtes chez vous, ben le soir, parce que jusqu'à présent avant le confinement, ils livraient en fait tard le vendredi soir. Ça fait que ben eux ils passaient aussi en dehors des bouchons, etc. Et ben vous êtes forcément chez vous le vendredi soir. Enfin, la plupart du temps vous êtes chez vous le vendredi soir, voilà, quand vous rentrez de votre travail. Mais voilà, ils sont. Ça a été un bon appui parce que ben on a bien senti que c'était quelque chose en demande. Donc
Et oui, il y a
ça
une
continuera
piste là.
toujours après le confinement. Voilà,
Et c'est
c'était
ça.
là aussi avant. Et ça a très très bien marché pendant, mais ils sont toujours là avec nous, partenaires du Drive Fermier Toulousain.
Vous nous rappelez leur nom, Elsa?
Alors, c'est le prestataire, c'est Applicoli.
Applicoli, ouais, tout à fait,
Voilà.
voilà. Alors, les producteurs également ont besoin de bras en ce moment, hein, on l'a vu avec les appels qui ont été lancés pour aller ramasser des asperges, des fraises, etc. Vous avez des demandes, vous aussi?
Oui, alors ben notamment donc nous on est très liés avec la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne qui en fait a énormément travaillé pendant le confinement sur le rapprochement ben, des grandes surfaces qui avaient aussi une forte demande de produits puisque avec la fermeture de certaines frontières, voilà, enfin la difficulté d'approvisionnement de certaines de certains produits, on a essayé de rapprocher en fait les producteurs locaux de ces grandes surfaces pour que eux puissent en fait écouler leurs produits et que ben, les grandes surfaces puissent aussi approvisionner les clients. Il y a aussi eu la mise en place de gestes barrières, enfin d'organisations particulières lors de marchés, puisqu'en fait, il y a beaucoup de mairies qui ont été obligées donc, de fermer leur marché de plein vent. Mais voilà, grâce à la Chambre d'agriculture, il y a eu quand même un service minimum sur certains marchés qui a été mis en place. Donc voilà. Et puis, ben, je pense que c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter. Il y a énormément de demandes de start-up aussi qui se créent sur l'aide à l'approvisionnement, l'aide logistique pour les livraisons, etc. Donc voilà, nous, le Drive, on est aussi en train de se remettre en question sur toute une organisation pour peut-être développer d'autres prestations. Donc voilà, il faut vraiment que les clients ne nous oublient pas, les producteurs sont là et ils savent aussi en fait se remettre en question pour pouvoir s'adapter à la demande. Donc je pense que c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas là.
Alors, c'est top secret ou vous pouvez nous livrer déjà quelques pistes de travail? Il faut être dans l'innovation, même quand on fait, j'allais dire, de la production, même quand on travaille la terre, même quand on est éleveur, producteur, il faut savoir innover.
C'est ça, c'est ça. Alors, ils innovent parfois dans leur production, ils innovent aussi dans la transformation, mais ils innovent aussi dans la commercialisation. Et voilà, nous aujourd'hui, on réfléchit à notamment ben, livrer sur le lieu de travail, puisqu'on se dit que ben, peut-être voilà, les clients on peut aller directement sur des entreprises, en fait, livrer les entreprises. Donc, bon, c'est à réfléchir dans la logistique, mais voilà, c'est quelque chose qui, je pense, pourrait se faire, hein, qui plairait certainement aux clients, puisque ben, du coup, ils ne bougent pas en travaillant. Le soir, ils repartent de leur travail, ils récupèrent leur commande qui a été livrée dans la journée. Et puis voilà, donc c'est une manière de se rapprocher, de simplifier l'approvisionnement pour les clients.
Voilà, exactement. Vous êtes optimiste pour les mois qui viennent. Bon, vous nous disiez, on espère qu'on ne va pas nous oublier. Vous pensez que justement, en mettant en place de nouvelles actions comme ça va vous permettre de rester très actif et que les clients ne vont pas tous se précipiter dans les supermarchés, aux alentours, aux abords des grandes villes?
C'est ça, on espère. Voilà, il faut penser que le producteur, il travaille pas que pour lui, hein. S'il fait des mauvais produits, ben forcément, il le vend pas bien. Donc aujourd'hui, nous, les producteurs qui sont en vente directe, ont vraiment cette envie de bien faire. Donc je pense que voilà, il faut pas oublier ça. Quand on est derrière une grande surface, ben le producteur, il peut peut-être se moquer, voilà, des produits qui vend. Là, pour le coup, les producteurs sont vraiment derrière leurs produits. Donc, vraiment, c'est Leur envie, c'est de bien faire. Et donc, ben voilà, forcément, on a des bons produits derrière. Et puis, ben, on est aussi là pour écouter les clients et leurs demandes. Hein, donc, on sait aussi s'adapter. Et c'est le principe de la vente directe, et d'être en face à face.
Et voilà, et de garder ce contact humain.
Voilà.
Merci beaucoup, Elsa. Vous nous rappelez l'adresse de votre site internet. Donc, on va sur votre site, on choisit les produits, on passe commande. Alors, on passe récupérer soit chez vous à Toulouse ou vous nous livrez.
Voilà, donc c'est drivefermiertoulousain.fr, tout simplement. Il n'y a pas de minimum de commande, il n'y a pas d'obligation d'achat, il n'y a pas de contrat. Donc, vous commandez quand vous voulez, ce que vous voulez, les quantités. Voilà. De toute façon, les produits en ligne sont censés être disponibles. Donc, voilà, vous êtes totalement libre de commander ce que vous voulez, quand vous voulez.
Et on connaît l'origine des produits. Merci.
Voilà.
Merci à vous, Elsa. Merci à vous de nous écouter également sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre et continuez à nous écrire contact@radioprésence.com.